Le 6 décembre 2014, je me suis rendue à la Bibliothèque royale. En raison de la commémoration de la Grande Guerre, un programme européen met à jour les collections. Voici une livraison radio de cette visite.
Un autocannonier qui est passé par la Russie m'a raconté exactement la même histoire. C'est la troisième personne. Ouais.
Mon nom est Frédéric Lemers et je suis responsable de la numérisation des collections à la Bibliothèque royale et organisateur de l'événement des journées de collecte ici à la Bibliothèque royale.
D'accord.
Donc ici on est dans la salle d'attente. Voilà, il y a toute une série de personnes qui sont venues.
Bonjour.
Bonjour. Madame est journaliste et elle fait un sujet sur les journées de collecte. Je ne sais pas si vous seriez d'accord de répondre à l'une ou autre question, les raisons pour lesquelles vous trouvez le projet intéressant. Et rappelez-moi, le média, c'est...
Radio Panico à Saint-Josque, elle existe depuis 30 ans.
Ok.
Merci. Je peux m'asseoir à côté de vous et vous interroger ? Je vais par contre me déshabiller un petit peu, parce que dans cette bibliothèque, il fait bon.
Je m'appelle Nicole De Voest. J'habite à Bruxelles, bien sûr, à Saint-Josse.
Comment vous êtes tenue au courant de cette activité de la bibliothèque royale ?
Par la radio, donc qu'on pouvait venir le samedi. Ça fait 2 heures que j'attends et ça devient long. Parce que je dois attendre pour scanner les documents, enfin. Et en espérant qu'ils pourront le faire, parce que comme c'est déjà une photocopie, au fond. Parce que je ne sais pas où sont les originaux. Je ne sais pas si c'est une de mes autres sœurs qui les ont. C'est au décès d'une tante qu'on a trouvé ces documents. Alors voilà, je ne sais pas. Mais c'est intéressant à lire parce que c'est les événements au jour le jour, au fond.
Vous les avez lus ?
Oui, je les ai lus. Oui. Il y a quelques petits mots parfois qui ne sont pas très lisibles, mais mon grand-père était un monsieur assez éduqué et il avait une écriture assez lisible malgré tout, alors ça va encore.
Vous pourriez me lire 2 lignes ?
Bon, dans la journée du 27 juillet 14, les premières rumeurs de la guerre circulent sérieusement à Louvain. Ceci a pour conséquence de faire augmenter de suite le prix des vivres. Cependant, grâce à l'intervention énergique des autorités communales, ces prix furent réglementés, ce qui ramena un peu de calme dans les esprits. Alors, le vendredi 30 juillet, jour de grand marché, les fermiers des environs, ignorant les arrêtés de réglementation, voulurent appliquer le prix exagéré. Ils en furent empêchés par les ménagères et plusieurs incidents se produisirent. Enfin, vous voyez, c'est assez... Au jour le jour, comme ça, c'est assez vivant, je trouve. Mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir scanner de cette façon. Comme c'est déjà une copie, on verra si ça marche ou pas. J'espère que je n'attends pas pour rien, parce que s'ils me disent qu'ils ne savent pas numériser le document, je ne sais pas. S'il faut un certain netteté ou quoi. Ah, c'est pour moi. Voilà, merci.
Bonne journée à vous.
Vous avez un autre bureau d'interview. Et donc, les experts de la Première Guerre mondiale qui sont présents aujourd'hui aident les intervieweurs et aident le public à contextualiser le récit, à le recadrer dans des événements historiques connus, à identifier la portée de certains documents. Parfois, on nous apporte des photos par rapport auxquelles on ne sait pas grand-chose. Et sur base d'un contexte général, il y a moyen d'enrichir la connaissance de ces documents.
Un journal anglais, vous voulez dire une presse
Oui, c'est ici une presse, voilà, ici, voilà. The Nursing Mirror and Midwife Journal. Et on parle de Madame Curie, mais dans le texte, on ne dit pas qui exactement. Et on voit la photo ici, en très mauvais état, voilà, on la voit ici, elle est découpée. Oui, voilà, mon nom c'est François Van Meenen. Et voilà, on avait trouvé dans les papiers de mon père, les documents de son père à lui, donc c'est-à-dire mon grand-père, qui devait être major médecin honoraire durant la guerre 14-18. Et donc on a vu une photo ici, lui là, avec une infirmière. Et en fait, la photo est prise avec une camionnette. Ils allaient, je crois, sur le front faire des radios pour les soldats qui avaient été, donc, qui étaient blessés.
Si on a le numéro 48, ça veut dire qu'il y a 47 personnes avant nous.
Paul Wulus, W-U-2-L-U-S. Je suis originaire d'Oscarbeek. Mon épouse est Molenbeek. Dans l'hypothèse où dans X mois, X années, hein, on se retrouve sur son lit de mort, à ce moment-là, peut-être que les enfants se diront « qu'est-ce que c'est que ces vieilles histoires, pas la poubelle ?» Alors j'aime autant, avant qu'ils les mettent à la poubelle, pouvoir les insérer ici dans toute la documentation de la bibliothèque, de façon à ce que ça puisse un jour servir peut-être à l'un ou l'autre chercheur. Ce que j'ai peut-être plus, disons de plus, pas de plus troublant, enfin de plus symptomatique, ce sont trois cartes de postales écrites par le frère de mon grand-père, qui en 1917 a été pris par les Allemands et a été forcé d'aller travailler en Allemagne. Il est revenu d'ailleurs fin 1917 pour des raisons de santé. Ce sont trois cartes qu'il écrit d'Allemagne à son frère et à sa belle-sœur en disant « Voilà, envoyez-moi s'il vous plaît. » Il demandait principalement, semble-t-il, du pain et des biscottes. S'ils étaient maltraités, mais enfin, ils n'avaient certainement pas grand-chose pour vivre là-bas, pour pouvoir se nourrir.
Mais alors, en fait, ici, on ne fait que jouer le rôle de passeur. C'est-à-dire que les documents ne nous sont pas cédés, ni donnés. Mm-hmm. Les gens mettent à disposition leurs documents pour être numérisés, les récupèrent à la fin des opérations. Donc, nous, il n'y a pas d'enrichissement de patrimoine, il n'y a pas d'inscription de ces documents dans le patrimoine de l'État via les collections de la Bibliothèque Royale. On met simplement notre infrastructure et l'expertise scientifique associée à disposition du grand public pour jouer le rôle de passeur et donc leur permettre de fixer tout ça, de sauvegarder tout ça, de rendre tout ça accessible sur Internet. Ce qui est une différence fondamentale par rapport aux fonds propres de la bibliothèque qui, eux, restent physiquement conservés à la bibliothèque même s'ils sont par ailleurs disponibles sur Internet. Donc ça, c'est la grosse différence. Et alors, les documents qui nous sont confiés pour la numérisation dans le cadre de ces journées de collecte aujourd'hui, sont soit libres de droit, parce que leur auteur est décédé depuis plus de 70 ans, soit encore protégés par le droit d'auteur, mais comme ce sont des documents de famille, en général, les ayants droit sont les gens qui viennent nous les apporter. Donc c'est eux qui signent les conditions d'exploitation et qui nous autorise donc à publier tout ça une fois numérisé sur Internet.
Ça fait un moment que vous êtes là ?
Ah oui, ça oui. Et en plus de ça, je prends toujours un livre avec moi et aujourd'hui j'ai été distraite et j'ai pas pris de livre.
Pourtant la bibliothèque en est pleine. Vous pourriez faire un tour.
Oui, papa, j'attends.
Votre numéro.
Je m'appelle Nicole Legrand et mon grand-oncle est mort à la guerre de 14-18. Il était compositeur de musique. Et il a laissé des œuvres de musique. Et mon grand rêve, c'est une fois écouter, je ne suis pas musicienne, hélas, je ne sais pas déchiffrer ça. J'ai envoyé à la partie musicienne de ma famille, mais la partie musicienne de ma famille, ils habitent en Nouvelle-Zélande, un peu loin, au Danemark, à Toulon, et tous ces gens-là, même quand ils reviennent pourtant à la maison, il y a un petit piano, hein, portable, ils ne jouent pas la musique. Alors je me dis, bon, je vais mourir et je ne l'entendrai pas. Mais au moins, si je pouvais numériser cette musique, faire numériser cette musique, et qui sait qu'un étudiant désœuvré, etc. Il y a une de mes collègues à qui j'avais fait des photocopies, qui a joué et elle m'a dit c'est pas de la grande musique mais c'est gai à jouer. Ce sont des petites pièces. Hein.
Est-ce que vous pourriez me présenter l'objet que vous amenez ici à la...
Non, ce sont toutes des partitions. Il y a peu de dates mais celle que j'ai vue c'est 14, 16, etc. Il est mort à 28 ans. Le 18 septembre, je crois, il me semble que c'était ça. 18 septembre 18, donc vraiment peu avant la guerre. Il y a aussi des lettres, mais les lettres, à part le fait qu'il dit qu'ils vont faire un petit numéro de music hall, où il casse du sucre sur le colonel. Ça, il dit dans sa lettre.
Vous pouvez me lire le document ?
Marche 3e régiment carabinier. Et il a marqué marche censurée. Or, il n'y a pas de parole. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que ça avait été censuré ? Alors, j'étais prof jadis dans une autre vie, et il y a ma collègue qui m'a dit que peut-être, une historienne, que peut-être le rythme n'était pas bon. Était... Et comme il était aussi tapeur pour... vous voyez, pour... comment pour doubler les films, enfin c'était les films muets encore à l'époque, hein. Alors c'est possible qu'il avait un rythme déjà un peu ragtime ou quoi, je n'en sais rien, hein, puisque j'ai jamais entendu. Voilà, donc
il y a. Vous pourriez me lire la seconde partition, donner son titre.
Le Funeral March, Mascot of a Mascot, l'album belge, Clouds. Over land and sea. Un petit sourire, et là, donc, on marque en anglais que c'est le compositeur de ce charmant, cette charmante petite œuvre, et est résident pour le moment dans au pays de Belgique, quoi, hein. Et que c'est une pauvre petite. Pauvre petite patrie qui souffre beaucoup. Première rencontre. Et alors, c'est amusant parce que c'est vraiment l'art 1900. Mook, cakewalk. Ça, c'est vraiment ragtime, hein, c'est cakewalk. Alors, goodbye, angoisse. Village, scène de village, quoi. Le tourniquet. Et voilà, son œuvre.
Et donc comment vous avez réfléchi le classement ?
Bon, par rapport à au volet qui concernait les fonds publics, donc nos fonds, on est parti des métadonnées préexistantes, c'est-à-dire les descriptions catalographiques, avec enrichies de sujets et d'objets, qui eux sont indexés au niveau des moteurs de recherche. Donc il m'a de faire une recherche par sujet. Au niveau des journées de collecte, donc l'événement d'aujourd'hui, où là on se préoccupe des documents conservés par des particuliers. La finalité est la même, c'est-à-dire qu'au final, ces documents se retrouvent accessibles au niveau des mêmes outils web que nos fonds publics. Mais au départ, il n'y a pas de métadonnées. Et donc, les métadonnées sont enrichies au moment, et sont créées au moment de l'interview. On transcrit l'interview, le récit oral, on le transcrit dans une page web, et on sélectionne un certain nombre de mots-clés qui sont prédéfinis, et qui correspondent le mieux au récit. Ensuite, un certain nombre de champs de la description, par exemple le titre, sont indexés et donc faciliteront la recherche. Mais ça veut dire qu'un récit qui traite de l'aventure des autocanonniers, des autocanons belges en Russie, avec toute la traversée de la Sibérie, ensuite voyageant en bateau jusqu'aux États-Unis pour revenir à la fin de la guerre en Belgique, pourra être rendu accessible pour tout qui effectuera une recherche sur le front de l'Est, par exemple, sur les autocanons, par exemple, sur 1915, 16, 17 et 18. Voire même sur la révolution russe, puisque à un moment donné, il doit fuir la Russie suite aux événements de 1917.
Oui, donc moi je m'appelle Sophie Wittemans, je suis d'origine anversoise, et je suis historienne et je me suis occupée de l'histoire familiale. Et donc j'ai fait de la généalogie et puis j'ai écrit des choses sur différentes branches de la famille. Et puis, comme apparemment je déchiffre bien, mon oncle m'a passé les carnets en me disant « Tiens, tu ferais bien quelque chose sur l'oncle Ludo ». Et la première étape, c'était de déchiffrer son écriture. Et donc, j'ai déjà passé pas mal de temps à travailler sur des copies agrandies des carnets pour essayer de déchiffrer mot à mot ce qu'il écrit. C'est pour ça que je sais en gros ce qu'il y a dedans. Mais bon, j'ai pas pu tout lire jusqu'à. Et bon, et comme c'est du papier quand même un peu fragile, et je sais pas si ça a eu un très très grand intérêt historique, mais enfin, sur le plan humain, quand même, je trouve que c'est intéressant, surtout qu'il était étudiant en médecine. Il avait, en 14, l'été 14, il avait entamé des études de médecine. D'abord, il s'était inscrit à Liège. Et puis la guerre a éclaté, donc ils ont fui en Hollande, et là il a continué à étudier un petit peu, de manière un peu chaotique. Mais au front, on voit qu'il a ses bouquins d'histologie et tout ça, et que dès qu'il a un moment, il étudie. Tout. J'ai trouvé ça émouvant, parce qu'après, il a fait une très brillante carrière de médecin. Et c'est fou de voir comment... Enfin, je pense qu'il s'embêtait aussi. Hein, quand il ne se battait pas, qu'ils étaient à l'air du front, il devait se reposer. On voit qu'il y avait des concerts. Peut-être que l'oncle de madame, là... voilà. Donc, et moi, je vois qu'il va à Vinquem, à l'hôpital, assister à des concerts, et des pièces de théâtre, et des choses comme ça. Donc, il fallait s'occuper aussi. Apparemment, il lisait beaucoup aussi. Donc, de temps en temps, enfin, des tas de romans, des trucs... parfois des auteurs qu'on a complètement oubliés, mais bon, qui à l'époque étaient à la bonne. C'est assez marrant. Et
qu'est-ce qui vous intéresse du fait de rendre au grand public une histoire personnelle et en même temps liée à un grand moment historique?
Oui, je trouve que c'est intéressant de partager ce qu'on a, parce que bon, c'est clair que ça contribue à son histoire personnelle, mais on ne sait jamais que ça puisse... éclairer sur d'autres aspects de l'histoire de la guerre. Moi, je suis pas une spécialiste de 14-18, mais cette préparation de la bataille de la Flandre, là, de septembre 18, ben, peut-être qu'il y a des recherches qui se font et que voilà, ces documents pourraient intéresser. Et puis, bon, d'un autre côté, mon grand-oncle était un neurochirurgien, enfin, un neurologue. De renommée internationale, il était fait baron pour mérite scientifique. C'est un très grand bibliophile aussi. Il a donné toute sa collection de livres ici à la Bibliothèque Royale, justement. Donc je me dis que des documents de lui, ils en ont déjà, alors autant compléter par ce qu'on aurait encore dans la famille.